Nous avons la joie d'accueillir dans nos studios de la rue d'Assali aujourd'hui Franck Bardou. Franck Bardou, donc, qui sera notre invité de cette semaine. Auparavant, je voudrais vous faire succinctement quelques présentations, en particulier de livres que nous aurons l'occasion de reparler dans les prochaines émissions. Tout d'abord, Michel Deguy vient de nous quitter, un des plus grands poètes reconnus de la langue française. Michel Deguy n'est plus, encore un nom à effacer de la liste des abonnés à cette émission Les Poètes, qu'il écoutait d'une façon régulière. Je voudrais juste lire un petit texte de Michel Deguy qui est extrait de Poèmes et tombeaux pour Yves Bonnefoy, publié à la Robe Noire, qui est Poèmes et translation. Et ça tombe bien parce que nous avons ici un poète, Franck Bardou, qui connaît bien ce problème de la translation. La poésie, nous dit Michel Deguy, est translation en plusieurs sens. Traduction de ma langue à ma langue. Tradition de son histoire à elle-même. Transformation inventant une fidélité qui transpose pour le présent contextuel où elle intervient l'usage, l'emploi, l'exploit des vers anciens, qui exploite pour l'entente poursuivie de grands tons mémorables où notre audience de la langue s'est formée, de cette responsabilité de lui répondre, de lui correspondre, de s'entretenir en elle et avec elle, je distingue au moins deux modes. L'un, de déformation, qui transforme des vers anciens pour les faire servir à la stupéfiante Novatio Rerum, où maintenant nous avons à les faire encore parler du possible, non sans quelque méprise, selon l'art poétique de Verlaine, pour leur infuser la ressource d'une prise en les déprenant de leur temps. Ainsi arrachai-je le dernier vers de la chimère nervalienne, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres et sur le monde roussélien d'une holoparonomase ludique pour retourner la croyance, l'impur esprit s'accroît dans l'aubier des vocables. Je m'en explique, dit-il ailleurs dans ce livre. L'autre, c'est l'adoption d'un grand poème modèle, d'emprunt, en l'occurrence à Villon, d'un poème hérité sur ses pieds anciens, qu'il s'agit de citer à comparaître dans le Nouveau Monde, pour qu'il nous parle encore, qu'il témoigne à nouveau du même. Qu'est-ce qu'un emprunt ? Voilà. Et il écrit ce poème à et tombeau pour Yves Bonnefoy. Voilà. Alors j'ai choisi ce texte, Franck Bardou, parce que je trouve qu'il y a là des accointances très importantes avec toi, ce qu'il dit sur le possible, hein, parce que la langue doit nous entraîner vers ce qui ne nous paraissait pas possible, hein, vers des ailleurs inconnus et des possibles, mais également sur cette prégnance de ce qui a existé avant, de l'œuvre qui a existé avant, et que l'on va retrouver effectivement aussi dans l'œuvre de Franck Bardou, avec tout simplement deux sources d'inspiration, les troubadours bien sûr, hein, mais également les poètes du Sud, les poètes languedociens, les poètes méditerranéens. Voilà. Donc, Poèmes et tombeaux pour Yves Bonnefoy, je vous conseille de lire, de Michel Deguy, aux éditions La Robe Noire. La Robe Noire, c'est un livre qui vous coûtera 10 euros, hein, tout petit livre, vraiment. Et ensuite, un de nos sociologues, ethnologue local, qui est également occitaniste, hein, que l'on connaît bien, puisqu'il assiste à tous les repas de la convivience ici à Toulouse, c'est Hervé Terral, qui est professeur émérite de sociologie à l'Université Jean Jaurès de Toulouse, et qui est associé au laboratoire Patrimoine, Littérature, Histoire. Alors, Hervé Terral, et nous ferons une émission sur ce livre qui est un livre important pour notre région d'Occitanie. C'est les éducateurs, les ethnographes, a choisi Hervé Terral comme sujet de ce livre, c'est un regard, ou plus exactement ce sont des regards, sur les écoles et les élèves du sud-ouest de la France de 1850 à 1950. Alors un moment où l'on remet un petit peu en question toute l'éducation actuelle, hein, et là aussi je crois que Franck Bardou aurait son mot à dire, puisqu'il est lui-même professeur, hein. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé dans cette époque qui est quand même une époque héroïque et un peu magique de l'éducation dans notre pays. Voilà, alors ce livre est publié aux Amis des Archives de la Haute-Garonne. Amis des Archives de la Haute-Garonne, c'est un très beau livre, un très gros livre, bien illustré. Et alors, ce livre ne coûte que 12 euros, donc avis aux amateurs, vraiment, je pense que les bons Toulousains doivent, et les autres bien entendu, puisque c'est tout ce qui concerne la sociologie et l'éducation, et l'ethnographie aussi, c'est important l'ethnographie, surtout de chez nous en Languedoc, hein, peuvent se procurer ce livre. Et enfin, et j'en termine là-dessus, Jean-Michel Bongiraud, qui est familier de nos émissions depuis maintenant près de 40 ans. Jean-Michel Bongiraud, qui est né en 1955, qui vit dans le Jura, et qui a publié une revue qui s'appelle Parterre Verbal, de 1992 à 2001, puis de juin 2008 à décembre 2012, un bimestriel qui aurait beaucoup plu à Franck Bardou, parce que c'est un bimestriel qui était libertaire, anarchiste, et qui s'appelait Page insulaire, et dont nous avons toujours rendu compte ici. Et en 2013, il a fait paraître le journal Fermentation. C'est une publication qui est ouverte à l'actualité et à la réflexion. Il a publié une quinzaine d'ouvrages, dont chez différents éditeurs, et dont pas mal d'ouvrages de poésie. Vous pouvez trouver ça, bien entendu, sur les sites internet. Alors, il publie Le Lapin Bleu. C'est une série de nouvelles, une diversité de thèmes portant un regard sur la vie présente, de l'enfant inquiet à l'étrange nounou, en passant par la femme croyante, s'interrogeant sur sa vie. L'écriture est classique de Jean-Michel Bongiraud, encore une fois, hein, l'écriture sobre, sans aucune redondance, qui capte le lecteur, qui l'entraîne malgré lui dans les méandres de morceaux de vie dans lesquels chacun peut se retrouver et réfléchir aux choses qui l'entourent. Voilà. Alors je vous invite vraiment à vous procurer ce livre qui est édité Au bout des mots. C'est une maison d'édition, Au bout des mots, facile à retenir. C'est un livre aussi qui est important. Il a, il me semble, 120 pages et il vous coûtera 14 euros. J'en finis pour appeler le samedi 5 mars à 15h30 et le dimanche 6 mars à 11h de vous rendre dans ce centre magnifique qui est le centre Joe Bousquet et son temps à Carcassonne, où René Pignès, hein, dans cette maison Joe Bousquet, fait un travail extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je le dis très humblement, il n'y a pas l'équivalent à Toulouse de ce qui est donné à Carcassonne. Voilà. Ce qui, peut-être, doit nous interpeller. Alors, il y aura là une lecture à deux voix, ça s'appelle « Chair vive » au pluriel, par Nancy Huston et Coralie Zaonero. Coralie Zaonero, voilà. Alors, lecture de l'ouvrage de Nancy Huston, « Reine du réel, lettre à Griselidis Réal » qui vient de paraître aux éditions du Nil. Et puis des poèmes de Griselidis Réal qui viennent d'être édités aux éditions Segers sous l'intitulé « Chair vive, poésie complète » avec la préfacière, bien sûr, c'est celle qui va lire également, Nancy Huston. Voilà. Et Coralie Zaonero, elle est comédienne et metteur en scène. Voilà. Comme d'habitude, on est là dans une performance vraiment de très haut niveau, hein, dans cette maison de l'Occitanie. Un tout petit extrait d'un poème. Pour nous, la nuit est devenue blessure. Notre sang s'est pétrifié et de sombres fleurs à l'odeur de mort fleurissent et se taisent dans nos rêves. L'heure est vide, nous attendons en vain. Personne ne nous appelle à travers les pierres muettes. Aucune main ne nous fait signe à travers les barreaux de fer. Nul vent, ne soulève la poussière du temps de notre corps. Nul soleil n'éclaire notre visage. En nous, l'espérance lentement devient cendre. Le jour et la nuit, confondus en un seul silence, se détruisent doucement en une mort invisible. Nous voulons vivre. Libérez-nous, libérez-nous. Déchirez ces murs, cassez tout en morceaux. Enlevez le poids de dessus notre âme et détruisez l'espace. Ouvrez l'immensité et offrez-nous de l'air. Nous étouffons horriblement et devenons si lourdes. Nous ne savons plus si la vie respire encore dans nos veines endormies, si un cri s'arrache encore de nos poitrines de pierre, là-haut, vers la liberté. Voilà, c'est les prisonnières dont poème à toutes celles qui sont enfermées de Chryselidis Real. À retenir donc, et si vous pouvez, Carcassonne n'est pas très loin, samedi 5 à 15h30 et dimanche 6 à 11h.
Et ne vous contentez pas de fréquenter la maison de Jouet-Vousquet, fréquentez avant tout son œuvre.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, Franck Bardou, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Alors, il y a une kyrielle de publications nouvelles dont tu vas nous parler. Franck Bardou, je présente très rapidement. Tu es un Toulousain, hein? Et tu écris en occitan depuis 1989. Et tu collabores à la revue Hoc. Tu es depuis 2011 le rédacteur en chef de la revue Le Gay Saber.
Ça s'est arrêté 5 ans plus tard. Oui. J'ai passé la main.
Ah oui. À Salle Lousteau.
Voilà. Monsieur Salle Lousteau, voilà, qui est tout
que
à fait aussi, efficace.
Nous avons fait l'émission avec Clément Pêche, d'ailleurs, que tu as vu tout à l'heure. Et tu es l'auteur d'une thèse de doctorat. Alors ça, c'est extraordinaire, quand même, cette thèse de doctorat. Je crois qu'il n'y a pas eu, de nouveau, sur l'œuvre et la pensée de René Lely. René Lely, qui a vécu de 1907 à 1982. Et tu as fait paraître un très beau livre là sur René Lely.
Le fruit de la thèse.
Oui.
Voilà. Qui permet d'avoir un panorama des multiples aspects de sa pensée qu'on pourrait rapprocher de la pensée gnostique à condition de n'avoir aucun souci d'anachronisme.
Oui. Alors, tu es membre de l'Académie de Jeuflerot.
Oui, avec grande joie.
Et de l'Académie Occitano.
Voilà.
Et tu es bien sûr auteur de nombreux livres de poèmes, dont tu nous parleras, de toute cette œuvre. Ça fait quoi, une vingtaine peut-être maintenant?
Actuellement, je comptabilise 32 ouvrages, 32. Soit parus, soit sur le point de paraître d'ici un mois. Ça fait quelques-uns déjà.
Et donc, c'est-à-dire, tu as dans les poètes occitans vivants actuellement, tu es parmi un des plus prolixes quand même.
C'est probable.
C'est probable.
Après, il y a ce que l'on produit, et puis il y a ce que l'on publie. Et peut-être que certains d'entre nous sont très discrets, mais n'en sont pas moins prolixes.
Oui, ça, on le saura.
Mansiet a été beaucoup plus prolixe qu'il n'a publié. Et il est connu sur son œuvre publiée.
Oui. Oui, je pense à Alem aussi,
qui est excellent.
Alors, tu t'es manifesté aussi dans un mouvement
descubertista. À partir du mot descuberto, découverte. C'est, alors, si on osait le titre en français, ce serait un découvertisme, c'est-à-dire une littérature ayant pour objectif de découvrir. Évidemment, ça renvoie au surréalisme. C'est la même perspective, mais au lieu de se fonder sur les acquis de Freud, ça englobe Freud, Lacan, et surtout ça englobe Jung. C'était la part que je souhaitais faire prendre en considération par mes co-signataires du manifeste, qui en ont fait ce qu'ils ont voulu. Je ne suis pas le chef d'une troupe, ils font ce qu'ils veulent, ils sont grands et majeurs et vaccinés. Mais on avait lancé un mouvement de cette manière. C'était histoire de se mettre le pied à l'étrier et d'avancer.
Il y a une grande influence de Jung. Hein.
Je l'espère. En tout cas, chez moi, c'est très certain.
Oui.
Très certain.
Alors, ton art poétique, Et il est traversé, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, par les troubadours, hein, toute l'œuvre des troubadours, c'est l'œuvre extraordinaire.
Oui, resplendissante. Absolument. C'est ma leçon de civilisation. Ma civilisation, mon arrière-plan culturel, ce sont eux. Et je n'en jette aucun. Même les quelques mauvais coucheurs que sont les critiques satiriques des premiers temps catholiques, qui me ressemblent tellement peu. Mais j'aime bien qu'ils soient là, parce que leur verve aiguise la mienne. On peut toujours imiter leur forme si le fond ne nous intéresse pas trop.
Alors, les troubadours, j'espère que maintenant, on va mieux parler des troubadours. Nous avons Gérard Zucchetto.
Oui.
Qui est, avec laquelle nous avons eu le plaisir de réaliser une émission il y a peu, qui s'emploie quand même, qui est une sommité dans la connaissance des troubadours du monde et qui rayonne quand même dans notre Occitanie.
Voilà. Disons qu'à tous les deux, lui à sa manière, moi la mienne, en conjoignant nos efforts, tandis que l'université se consacre à un examen, spéculatif, nous avons choisi une voie beaucoup plus opérative. Et donc nos chemins sont complémentaires de ceux de l'université.
Alors, ton art poétique s'articule autour du rythme, dans une perspective alors hallucinatoire, visionnaire, qui ouvre l'imaginaire des textes à tous les possibles, ce que je disais tout à l'heure, comme disait Degui, c'est-à-dire il faut absolument qu'on aille vers là. Hein. Et ceci t'a valu d'abord le prix Goudouli de l'Académie du Languedoc, hein, pour l'ensemble de ton œuvre poétique, et c'était déjà en 2011. Et puis, dans Cantionnaire d'un temps esperdut, chansonnier d'un temps est perdu, c'était le fruit d'une collaboration donc avec Gérard Zucchetto, dont nous parlions.
Et le peintre Michel Taupin.
Voilà. Et également Sandra Hurtado-Ross, hein, que nous avons eu le plaisir d'entendre à l'hôtel de César, l'Académie des Jeux Floraux, pour la réception de Gérard Zucchetto. Donc, tu as également publié de la prose, deux recueils de nouvelles et un roman, alors, d'inspiration toujours jungienne.
Ceux qui connaissent le sujet reconnaîtront Jung à l'intérieur du roman. C'est un roman d'anticipation, mais quand on invente, on a tous les droits.
Alors, tout de suite, nous allons écouter un de tes poèmes mis en musique, et donc publié également par Gérard Zucchetto dans sa maison d'édition Trovavox, qui est à la fois une mission de CD, hein, de musique, mais également de livres.
Et voilà. Tout bientôt, une maison d'édition de livres-disques, c'est-à-dire où il y a à la fois de quoi lire et de quoi écouter. Quoi,
ouais. On écoute tout de suite Martin Baird.
Beleu per un matí mai verd, beleu per respir del desert. Passarem veure l'auro ferro de l'altre mà de la gran cero. Passarem veure l'auro ferro de l'altre mà de la gran cero. Beleu per una sei mai blau, beleu per i trappa tresor. Passarem fugi de l'altro ma de la gran sera, passare in fugi la miseria dell'altro ma de la gran sera. Peut-être pour ce matin vert ou pour le souffle du désert, nous irons boire le vent sauvage de l'autre côté du nuage. Nous irons boire le vent sauvage de l'autre côté du nuage. Belle au père d'une dieu mai gada, au père amour sous faux branda, guitare de sogna sopero. De l'autre main de la grand sœur, digitale annesso, un mio socchero dell'altro modo la gran sera. Però per un su lei mai out, però per un pala istanout, passare in giro un mistero dell'altro modo la gran sera. Passare in giro un mistero dell'altro modo la gran sera. Peut-être pour ce ciel si bleu, ces choses qui nous rendent heureux, nous irons fuir notre misère de l'autre côté des mystères. Nous irons fuir notre misère de l'autre côté des mystères. Nous irons fuir notre misère de l'autre côté des mystères. Nous irons fuir notre
de Franck Bardou. Franck, tu peux nous dire quelques mots sur ce poème mis en musique par Gérard Zucchetto ?
C'est un poème qui fait référence au monde catalan, l'autre côté de la montagne. Ici, comment peut-on être occitaniste ? Lorsqu'on passe la montagne, comment peut-on ne pas l'être ? Donc il y a toujours un autre côté qui nous renvoie à Morrison, « Get on to the other side », « Allez voir de l'autre côté ». Et effectivement, les Catalans sont mon autre côté. Un côté plus déployé, plus affirmé, plus... Quand je me sens trop atrophié par le climat culturel francisant, et non pas simplement français, ce qui est indorant, francisant c'est tout autre chose, je vais me guérir en allant au contact des écrivains catalans, en allant au contact des citoyens catalans, j'ai des amis, j'ai même des cousins, et j'y respire beaucoup mieux. Même si Barcelone est très polluée.
Tu as d'ailleurs un livre qui a été traduit en catalan.
Oui, c'était mon premier roman. Et celui qui m'a fait l'honneur de le traduire, c'est Manel Chabal, qui est lui-même un excellent écrivain catalan, qui manipule l'ironie avec excellence, sous l'habillage de contes apparemment traditionnel, mais en réalité extrêmement moderne, où des animaux parlent, il insolente notre société et toutes ses petitesses, avec légèreté, facétie, et c'est un homme extrêmement intelligent.
J'avais eu le plaisir de connaître moi Luis Alpera, je ne sais pas si ça te dit quelque chose,
oui.
Professeur à Reus. Mmh. Et dans les années 80, j'avais traduit donc ses poèmes pour France Culture, en passant par l'espagnol. Voilà, avec lui.
D'accord.
Et il m'a envoyé un mot, là, très gentil. Et il est toujours à Reus, Luis Alpera.
Les gens...
Il y a un retentissement dans le catalan qui est quand même et sans comparaison avec l'occitan. Hein. C'est pas à toi que l'on...
Alors,
je parle sur le plan de la diffusion de la langue.
Voilà, sur le plan de la sociolinguistique, voilà. Ils sont le jour et nous sommes la nuit.
Voilà. Oui. Je ne parle pas de la qualité des œuvres littéraires, hein, loin de là. Hein,
de ce point de vue, on se défend tant bien que mal, on se défend.
Alors, Franck Bardou, je voudrais t'interroger à propos de quelqu'un que tu dois certainement aimer, vu son côté très libertaire, c'est Louis Calaferte. Louis Calaferte. Alors, qui dit « Créer, c'est dénoncer ». Se retirer, couper les ponts, être contre. Ça, c'est ce que disait déjà Félix Castan. Il me disait toujours, Christian, il faut être contre. Être contre. La révolte, le mépris, le cynisme, le scandale, l'hermétisme, la démesure ou le délire marquent la poignée des grands livres que nous admirons. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Est-ce que, toi qui, ta langue reste, par exemple dans ta prose, ça reste une langue assez classique?
Oui.
Hein? Assez classique.
Oui. Oui. Une prose linéaire, narrative. Oui. Mon but est de raconter quelque chose.
Oui. Mais en poésie. En poésie, je pense que tu serais dans cette définition. Parce que je me trompe.
Alors, je suis contre beaucoup de choses, oui. Sauf une.
Oui.
Parmi toute la liste de ces ennemis à abattre, je me sers tour à tour de ci, de là, ou de la clarté, du troubaléu, oui. Ou de l'hermétisme. Et j'ai besoin des deux.
Oui.
Alors comment vivre dans ce genre d'inconfort et de contradiction? Parce que ça a une dimension contradictoire, tandis que le propos tenu par cet auteur est extrêmement cohérent. Mais je suis dans la contradiction aussi à l'aise que l'a été mon illustrissime prédécesseur Fernando Pessoa, qui, pour être très à l'aise avec les contradictions, était les uns et était les autres. Et écrivait tour à tour au nom des uns, au nom des autres, n'étant jamais Pessoa, personne.
Oui.
Cette aisance, bon, je l'assume comme un gémeau, je crois qu'il l'était aussi d'ailleurs. Le fait est que il m'arrive d'avoir besoin de dire l'indicible, qui confine à la métaphysique. Je n'en suis pas moins un libertaire qui en 36 serait parti mourir en Espagne, et je serais mort très vite. Je n'en doute pas un instant. Je n'ai aucune velléité à la guerre, donc j'aurais pas fait de vieux os, c'est évident. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui me parle immédiatement aux tripes, comme si, j'y avais déjà vécu. Et c'est pour ça que j'ai raconté des nopards, ça a commencé pendant la période dite du confinement, la première période, celle où on était assigné à résidence à moins d'un kilomètre de chez soi. J'ai écrit 157 poèmes d'hommage aux 157 morts qui gisent lamentablement, encore qu'aujourd'hui on leur rend quelques semblants d'hommage, sur les limites de l'ancien camp de concentration du Vernet d'Ariège, qui était tout près de ma maison. Rendre hommage à ces morts-là, c'est aussi rendre indirectement hommage à tous les autres morts qu'on n'a pas comptabilisés ni couchés nulle part, et qui sont morts au même endroit dans les mêmes abominables conditions. Or, ces braves gens, avant qu'il y ait des juifs prisonniers pour les raisons abominables et injustifiables que l'on sait, c'était avant eux des libertaires de la 26e colonne, la colonne d'Urruti, celle qui défendait Barcelone, celle qui a empêché le putsch de prendre place à Barcelone, les mêmes. C'est des héros, c'est des lumières de l'humanité démocratique. Et ils ont été parqués comme du bétail, et encore le bétail, les conditions sanitaires étant à peu près rassemblées pour qu'on ne s'empoisonne pas, et mieux traité que ces pauvres gens. J'ai honte d'avoir une maison indifférente posée à côté de cette horreur. Donc je me suis consolé comme j'ai pu d'être enfermé moi-même, en parlant de leur enfermement et de l'injustice que j'y lisais à travers. Et ça m'a donné l'envie de poursuivre les vocations de la guerre d'Espagne et de toutes les guerres qui lui ressemblent d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan métaphysique ou sur le plan physique strict. Ce qui fait que j'ai ouvert une liste de textes encore indéterminés quant à son chiffre maximal, que j'appelle des chroniques démiurgiques. L'avantage d'une chronique, c'est que régulièrement on y revient. Et chaque fois que j'ai envie d'écrire des sirventes, comme disaient les troubadours, c'est-à-dire des poèmes non pas inspirés par l'amour, mais par le ressentiment et la critique, être contre, j'ouvre le cahier de chroniques démiurgiques et j'ajoute à la liste. Alors les trois premiers tomes parus en 2020 sont donc sur le camp du Vernet.
Oui. Oui.
Voilà.
Le
volume 4 qui est paru en 2021 parle des massacrés du putsch militaire de Franco. Mais je n'ai pas eu le temps de faire le tour des massacres. C'est pourquoi un volume 5 est sur le point de paraître, qui continue à rendre hommage à tous les autres massacrés qui me manquaient dans ma petite comptabilité. Et elle est bien modeste, je suis sûr qu'il y en a eu bien d'autres. Quoi qu'il en soit, ça soulage de se joindre à eux. Et ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que certes, politiquement, c'est parfaitement justifiable d'un certain point de vue, que je défends ardemment, mais surtout, je crois que cette époque-là, 1936-1938, a quelque chose à dire à notre époque. Une époque lepénienne, zémourienne, où la bave de ce genre d'argumentation qui n'en est pas, qui se fonde sur la peur et sur la haine, est en train de faire complètement tache d'encre extrêmement noire sur tout le cadre du débat politique. Et pendant qu'on parle de ces inepties, fondées sur la haine et sur la défiance de l'autre, on ne parle pas des vrais problèmes. Problèmes pour lesquels se battaient ces héros-là. C'est pourquoi de les évoquer me permet d'évoquer mon époque. Et j'ai l'impression d'être rattaché à eux par autre chose que de l'émotion. Voilà. Il y a de la pertinence dans leur... de la pertinence contemporaine dans leur engagement qui a plus de 80 ans.
On va écouter, si tu le veux bien, des extraits. Alors, du dernier volume, peut-être, puisque...
Du volume le plus récent, oui, celui voilà, qui est paru il y a moins d'un an.
Le plaisir de parler des précédents. Hein.
Donc, le sous-titre de ce volume 4 des Chroniques démiurgiques s'appelle « État d'urgence poétique ». Et le titre du petit poème s'intitule « Une île », avec un petit point d'interrogation. « Une île, là ». Un illo de beton flottant per las bordiglios, un illo d'illusius sur un mare scuro, là de la certitude que demain, sans esido, sera piège que hier, mai pesu que mai sur. Un illo en la lazuel, que t'espero, beleu, de la nuit pluvinuse las erso salvaggios, que buleu la nau derisior del muz, que tan un tem bastid uno fe, per anà capavans del l'orur armado. Autoritario, tu as la mendro luz que pour yo murmura timidomen un nom à la nuit mai espesso. Là d'aquelos colonnos errados sanguinarios abausant los darie suspis d'humanitat aba la junta armada les generals fols. Une île de béton flottant sur les ordures, une île d'illusion sur une mer obscure. Mère de la certitude que demain, sans issue, sera pire qu'hier, plus lourd et plus sordide. Une île à l'horizon qui t'attendrait, peut-être, dans la nuit des ondées et des vagues sauvages, secouant le bateau dérisoire des monts, qui t'ont un temps bâti une fois pour aller de l'avant, dans l'horreur armée autoritaire. Tu as toute lueur qui pourrait murmurer timidement un nom. À l'épaisseur nocturne, celle de ces colonnes enragées, sanguinaires, détruisant les derniers soupirs d'humanité avant la jeune armée et les généraux fous.
Tu peux rappeler, en quelques phrases, hein, l'aventure de cette colonne d'Uruti.
L'aventure de la colonne d'Uruti, c'est l'aventure de beaucoup de colonnes révolutionnaires du boom de la CNT. À savoir des gens qui, tout en développant un argumentaire de gauche, ont voulu le mettre directement en pratique et se sont alors heurtés évidemment aux forces fascistes montantes, appuyées elles-mêmes, tous les petits fascistes espagnols arrogants et cubani, par les forces fascistes d'Italie, de Mussolini et par les forces nazies qui n'étaient pas des enfants de cœur non plus, la division Condor, etc. Les premiers essais de Blitzkrieg, en fin de compte, tombés sur Guernica et d'autres villages du nord de l'Espagne. Cette opposition s'est également heurtée à la stratégie, je dirais au stratégisme stalinien, car les staliniens de SS, les vrais, les purs et durs, se sont proposés pour aider les puissances révolutionnaires d'Espagne à la condition que ça devienne des gentils petits soldats aux ordres de Sa Majesté Staline, ce qui était complètement anti-révolutionnaire, contre-révolutionnaire, comme ils disaient eux-mêmes, ceux de Durruti. Durruti, c'est un anarchiste qui est mort dans les premiers temps de la rébellion, de la révolution pour défendre, sauvegarder la Deuxième République espagnole, catalane et basque. Et cette division a tenu Barcelone aussi longtemps qu'elle l'a pu, et bien entendu s'est trouvée acculée, comme tant d'autres, à la retirada. à la retirada, en catalan la retirada, qui les a conduits aux portes de notre État républicain du Front Populaire, il faut rester assis parce qu'on en tomberait, et qui là se sont retrouvés sommés d'abord de poser les armes, comme si c'était des malfrats, des pilleurs de ferme, enfin je ne sais pas, des bandits de grand chemin, alors que c'était les héros du peuple et de la démocratie en Europe, c'était le fer de lance s'opposant à la barbarie nazie montante, les premiers et les seuls à ce moment-là, et qu'ensuite on les a laissés passer au compte-gouttes sans leur apporter de soins, sans leur apporter de vêtements, sans leur apporter de nourriture, en les plaçant les hommes dans un camp à Argelès, les autres dans un autre, les femmes, dans des conditions où certaines ne se sont jamais retrouvées, les uns les autres. C'est quelque chose d'inimaginable, c'est la France. Et ensuite, on les a parqués dans des camps d'internement qu'on appelait déjà, c'était le nom écrit dessus, camps de concentration, pour les envoyer, non pas en camp d'extermination, c'était pas leur destinée, puisqu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas la malchance d'être nés soi-disant juifs, ils étaient envoyés à des camps où on se servait d'eux comme d'esclaves. Ils étaient encore plus maltraités que des prisonniers de guerre, parce que c'était des militants de gauche. Voilà. Et alors beaucoup d'entre eux sont morts dans des conditions dramatiques, à quelques kilomètres de là où ma maison se trouvait, à Gaillac-Toulza, donc au Vernet d'Ariège, où le camp se dressait. Et il y a encore des gens qui, aujourd'hui, pendant que nous nous parlons, habitent dans les casemates, dans les casernements qui servaient aux gardes d'habitation. Jamais de ma vie je ne pourrais habiter dans un truc pareil. Ils y habitent. Bon, je ne leur souhaite aucun mal, évidemment, ils y sont absolument pour rien. On me dirait que tu vas habiter dans la tombe de tes parents, ça me ferait la même impression, quoi. C'est quelque chose d'abominable. Il se trouve que parmi les prisonniers de la colonne, la 26e colonne de Ruti, il y avait un qui s'appelait Monsieur Sanz et qui a eu la chance, grâce à une femme particulièrement héroïque et audacieuse, une héroïne de la République, de s'échapper du camp, de rejoindre sa femme dans un premier temps, qui était elle prisonnière du côté du Tarn-et-Garonne, puis de se mettre aussitôt au service de la résistance et d'aller libérer la pointe du Médoc. Je suis allé sur place pour voir où cet homme s'était battu, je ne sais pas comment on y survit. Et donc à passer en quelque sorte, presque 9 ans, les armes à la main, pour... À la fin du conflit armé contre les nazis, lorsque ceux-là ont rendu les armes, s'entendre dire que pour l'Espagne, ma foi, on allait se contenter de Franco, parce que ma foi, Franco étant l'ennemi du bloc soviétique, c'était bien commode pour les puissances occidentales. Voilà. Or, cet homme a eu 4 enfants, et l'un de ses 4 enfants a eu un fils excellent, qui a eu l'excellence de choisir l'Occitan au collège d'Haute-Rive. Voilà comment je suis arrivé sur ce champ de bataille par un élève qui me disait « Monsieur, je fais Occitan parce que mon grand-père était aragonais, il n'était pas espagnol, et il était anarchiste. » On a des moments comme ça de grâce dans notre métier de professeur d'Occitan auxquels on ne peut pas s'attendre. On n'est pas préparé à ça. Et c'était un pur bonheur, et j'ai écrit les premières lignes en pensant à cette famille.
Des aragonais anarchistes, c'est parce qu'il manque... Que des fils d'Aragonais anarchistes, c'est parce qu'ils manquent à Toulouse. Hein.
Ils sont magnifiques. Ça fait de Toulouse une des villes les plus importantes du monde.
J'ai mon beau-frère, moi, qui est effectivement fils d'un Aragonais anarchiste.
Hein. Et voilà.
Et qui s'était réfugié à Carcassonne. Alors, Franck Bardou, je vais te demander de nous lire encore un extrait. Alors, peut-être, donc, là, on a bien compris. Tu veux rappeler peut-être... ces ouvrages, voilà. Où est-ce qu'on peut les trouver?
Alors,
et on va passer ensuite à un autre thème de...
Ces ouvrages sont tous à la collection Boutz et Trouba, de Troubavox. Je suppose que les références seront disponibles sur la page.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour les auditeurs.
Pour les auditeurs, il faut qu'ils sachent que Troubavox édite, on a édité en 10 ans une quarantaine d'ouvrages de poésie, pour la plupart occitans et français en regard, et quelques-uns uniquement en français.
C'est très important de dire ça.
Voilà.
C'est toujours bilingue. Tout le monde peut le dire, c'est toujours bilingue.
C'est la ligne éditoriale de Troubavox. Nous publions en bilingue.
Donc, vous pouvez lire toutes les chroniques dont vous venez d'écouter un extrait. Je rassure tous nos auditeurs français, de langue strictement française, et vous aurez la traduction en français.
Voilà, de l'auteur en l'occurrence. Oui. Je ne sais pas si c'est très fiable. À mon avis, je ne traduis pas, je réécris le poème en français.
À mon avis, c'est encore plus fiable.
Bon, quoi qu'il en soit, je ne parle pas que de politique. Ça, ce sont les Cervantes. Oui. Mais quand on dit que je suis à l'école des troubadours, il y a au moins ici d'autres textes qui peuvent en attester. J'ai commis, lorsque je suis tombé amoureux d'une dame qui a eu l'exquise grâce de tomber amoureuse de moi... C'était la véritable révélation. Un texte qui s'appelle Dintus Brasses, en pas mal de passages, où j'ai évoqué, pour la chanter, Joé Bousquet, René Nelly et Gaussin Faillit. Gaussin Faillit, un troubadour du XIIIe siècle, du XIIIe si je me souviens bien, qui avait lui-même la grâce de se trouver aimé de celle qu'il chantait. Ce qui fait de sa poésie la totale... contre-preuve de ce que Denis de Rougemont a raconté n'importe quoi dans l'amour et l'Occident. Les troubadours ne cherchaient pas l'amour inaccessible, ils le cherchaient difficile. Le rare est excellent.
Et j'ai également... Tu rappelles le titre, pardon, en français aussi
Dans tes bras, Dintus Brasses.
Oui.
J'ai commis pour cette même dame le jour, qui se verra suivi de la nuit, qui va paraître à la fin du mois de mars.
Tout ça à Troubavox.
Tout ça à Troubavox. Et à Troubavox également. Alors ça, ce sont des éditions de 2021, mais ce sont des textes qui ont pratiquement 20 ans lorsqu'ils sont édités. D'accord ? Ça date d'une période où j'étais tombé amoureux, il y a 20 ans, d'une Marocaine, d'une citoyenne du Maroc, qui avait l'exquise grâce de descendre à la fois des poètes arabes et des poètes berbères, et qui incarnait tout le raffiné de leur poésie. Elle était... on ne pouvait pas ne pas l'aimer. Et donc, je l'ai chanté d'abord avec espoir, ensuite avec patience, et enfin avec désespoir. Ce qui est assez banal pour un troubadour, mais qui a donné lieu, lorsque le désespoir m'a pris, et il m'a pris à plusieurs reprises, parce que c'était une histoire avec des hauts et des bas, c'était les montagnes, non pas russes, mais marocaines. Il m'a pris des moments de grande noirceur où mon seul bâton d'aveugle dans la nuit noire était la voix et la poésie de Jim Morrison. Ce qui a fait dire à certains que j'étais un Jim Morrison occitan.
C'est ce que dit ton éditeur.
Par exemple. Et ça a donné des poèmes assez surréalistes, je crois. Bien qu'en occitan et en français, j'espère qu'ils sont aussi poétiques dans une langue que dans l'autre. Elle ne comprenait pas l'occitan, donc il fallait bien que je soigne mes traductions. Traduction que devait lui lire son père, puisque quand on écrit à une jeune fille au Maroc, on écrit à son père. C'est pas simple. Les mouvements féministes n'ont pas encore gagné la partie. Ce qui fait que ce fut une épopée poétique, qui finit tristement, bien sûr, mais qui a quand même réclamé 2 ans d'écriture.
Alors, ce sont des ouvrages, de très beaux ouvrages, dans un format A4.
Oui.
Très beau livre, très très beau livre.
Et inspiré, mais ça vous vous en seriez douté, de la poésie arabe médiévale, mais également de Michel Houellebecq, de Sioran, en fait. Tout un tas de bouts en train qui illustrent parfaitement l'état d'âme dans lequel je me trouvais lorsqu'aucune réponse ne me parvenait du prêt de la bien-aimée.
Et là, on retrouve ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire le jeu étonnant un peu de Rimbaud, c'est-à-dire jeu étonnant, il ne faut pas le prendre dans le sens consumériste là, maintenant, ça devient un slogan publicitaire, c'est pas ça du tout. C'est au sens de Pessoa, c'est-à-dire comment je peux aussi être imprégné avec autant d'authenticité par un mouvement que par un autre, par une pensée que par une autre, fût-ce-t-elle contradictoire.
Voilà.
Ce que
peu de gens vraiment comprennent dans Jeu est un autre de Rimbaud, hein, le contresens complet.
Mais que comprenait parfaitement voilà. Jung, voilà. qui a observé qu'en fait, la cartographie de la psyché, de l'âme, était à quatre polarités, que l'une seulement était la persona, la personne, celle dont on répond, dont on se revendique, avec laquelle on s'affiche, tandis que les trois autres pôles sont soit à peine émergents à la conscience, soit complètement enfouis. Et nous avons les quatre pôles à assumer quand on a fait un travail sur soi en analyse jungienne. Ce que je n'ai pas manqué d'avoir la chance de pouvoir faire.
Ah oui, très bien. D'accord.
Voilà.
Tu rappelles, s'il te plaît, les titres de ces ouvrages.
Alors,
et tu vas nous donner un extrait de ces...
Le titre global, c'est « Madin Lucel aganti l'astre, men dans le ciel j'empoigne l'astre ». Moins que ce ne soit l'astre qui m'empoigne, mais ça c'est un sous-titre. La première partie s'appelle « Alandat », grand ouvert. La deuxième partie, « La Sphinx », ou « Le Sphinx ». On avait traduit « Le Sphinx » à l'époque. Et la troisième, ça parle tout seul, c'est « Le silence », ou « Silencie ». Il est évident que le silence était assez poignant.
Alors, ce sont de très beaux livres, je le disais tout à l'heure, hein, en A4. Et l'illustration de couverture, c'est...
Et alors, les illustrations de couverture sont d'un peintre qui n'est pas Michel Taupin, mais que j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est d'une peintre de Muret qui s'appelle Hélène. J'ai oublié son nom de famille parce que je l'appelle toujours Hélène. Hélène Rejambeau, qui a d'ailleurs, je pense qu'elle a ses peintures en vente en ligne. Et quand on rentre Rejambeau en ligne, on tombe immédiatement sur ses peintures. Elle a une illustration baignée de à la fois un peu de naïveté et en même temps d'héroïque fantasy. C'est un style bien à elle. Je suis très attaché à sa peinture. Et j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec elle sur d'autres titres, comme ici Sextant de verre, qui est une anthologie de mes sextines. Elle a fait l'illustration également de Dintus Brasses, dans tes bras,
oui.
avec une dame qui ressemble à un Bouddha, mais c'est une dame, ce qui est excellent au point de vue de ma métaphysique. La féminité est beaucoup plus divine que toute virilité que l'on puisse imaginer. C'est en tout cas mon point de vue, mon expérience spirituelle. Et si je dois lire un extrait, je ne sais lequel, mais je peux en lire un. On va puiser dans le silence. Il y a peut-être des textes un peu courts qui seraient bienvenus pour la radio, parce qu'on n'a pas une éternité pour parler.
5 minutes faciles.
Eh oui.
Donc.
Al canto de sus yuels, uno perlo d'aubari, erzejavon. Lo bateu er culcat sull'areno. E sa gran crusco, dai sabo lui grejalo i giuliels e la urfi des tresaurs intucaples, che son che lo ben lisabo, auro, sull'illo deserto. Au rebord de ses yeux écumaient les perles des naufrages, le bateau restait couché sur le sable, et sa carcasse, éventrée, reluisait de joyaux et d'orphins, de trésors intouchables, que seul le vent caressait, frisson, sur l'île déserte. C'est ce qui arrive quand la dame ne répond plus à nos appels désespérés. Mais il y a d'autres situations que j'aimerais vous donner un aperçu, telles que par exemple dans Dintus Brasses, dans tes bras, où nous avons affaire à des choses un petit peu plus positives pour autant que je puisse en juger. Voici quelques épigrammes. T'imagini già per las prados, lisant un pas leugier sobre las frus benentos, subricados pompi promesos in ausido de luz de sazur vengudo. Je t'imagine dans les prés, glissant d'un pas léger sur les fleurs renaissantes, à cime d'éclosion, promesses inouïes aux clartés des saisons venues. L'ubente penceno de brancos, dell'espacio rendu d'amore de primalbo, e la resplendu blanco de laissimos al luen, cun tal sella na de ta gracio. Le vent y peignera de branches, dans l'espace rendu d'amour de première aube, et la splendeur si blanche des cimes au lointain comptera au ciel ton allure. Tout arabes précommençant, Anaren contempla lo merma de l'autun, din les bleugido pas din oreiro sazu, din de silenci clars buscatges. Une bientôt l'après-midi, nous irons contempler comme s'éteint l'automne dans la paix éblouie d'une arrière-oraison, au silence des clairs bocages. Ma din la main, sommi conjunts, montaren duos a duos las nibus fugidissos, aplantant din l'uben las caudos desiransos, que fan de l'hiver cando festo. Men dans la main rêve conjoint, nous gravirons vaillants les nuages fuyants pour dresser dans le vent nos désirs chaleureux qui font de l'hiver une fête.
Je vais te demander de poursuivre. Nous avons encore quelques instants.
Bon, on va essayer alors voilà. De voir dans l'autre jour.
L'autre jour, oui. Dans le jour.
Un petit sonnet, c'est un recueil de sonnets. Un poème, quand la poésie parle d'elle-même. Dilatios mas de lune a queste vers humil, que si poscos mira, fis en suso la bio, que de l'art de tama monto se perdra el ben sus graces del soleil per son ben brisendiat. Pausarai trimulant, din l'esped agrada, al solenne dardal de ton agai de fado, un vers mira el desmai, où l'uicel son tombats, cap als cans infini des arcanges de lutz. Mus passe sur la mar, già se fond un alumbro, ca lung un calabru celebrant a siaudu, es pauso como Christa usel sur les ersos, davant un liei de scum un tesseses de cops, e pregit un tourna, de delaïdus asuels, des cuneguts mas bius, d'un desclairos du monde. Un poème. Dans tes mains, blanche lune, ce modeste poème, pour que tu puisses y voir en confiance la voix qui, de l'art de t'aimer, monte se perdre au vent, aux marches du soleil, par le soir incendié. Je poserai tremblant, dans l'espoir d'agréer à l'éclat solennel de ton regard de fée, un poème à miroir des mois où les cieux tombent vers des champs infinis d'archanges de lumière, mais pas sur l'océan déjà se fondent à l'ombre, qu'étire un crépuscule hommage à ta douceur, et tels des cris d'oiseaux se posent sur les vagues, devant ton lit d'écume où tu t'assois parfois, et je prie ton retour d'au-delà des azurs, inconnu mais vivant, d'où tu éclaires les mondes.
Merci, Franck Bardou.
Merci à vous.
Alors, je rappelle que le titre de ces ouvrages, vous les trouverez sur le site Les Poètes, tout attaché, sans accent, point site, hein, c'est le nom du site, hein, lespoètes.site. Et également, je voudrais annoncer que la semaine prochaine, nous inaugurons un nouveau type d'émission ici, dans Les Poètes, c'est Carte Blanche A. Donc nous demandons à un artiste de présenter sa création sur 55 minutes. Voilà. Et il a carte blanche, il n'y a pas d'entretien, c'est l'artiste qui vient et qui lit ses poèmes, fait ce qu'il veut, il a carte blanche, et nous le passons à l'antenne pendant l'heure de l'émission. Voilà. C'est Bruno Ruiz qui sera le premier à inaugurer donc cette nouvelle collection de notre émission Les Poètes.
Voilà. Une belle aventure. Hein.
Et donc, Franck, si tu veux bien, tu peux travailler là aussi pour faire carte blanche à Franck Bardou.
Il y aura 5 nouveaux titres cette année qui sortent à la fin du mois prochain.
Voilà. Je pourrais travailler. Indépendamment du fait que, bien entendu, nous te demanderons de venir pour ces publications pour nous parler quand même du contenu et de nous entretenir du contenu donc de ces futures publications, ces prochaines publications.
D'accord.
Voilà.
À bientôt.
Merci beaucoup, Franck. À bientôt. Et nous invitons les auditeurs à se reporter à ce site de points, lespoètes.site, sur lequel ils trouveront le nom dans une rubrique de ce site qui fait part de l'actualité poétique d'une façon générale en France. Des événements évidemment toulousains mais également qui renvoie à toutes les émissions qui sont faites et qui indique quel est le contenu des ouvrages qui sont lus par les auteurs ou qui sont lus par moi-même lorsque je parle des auteurs. Voilà. Ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.